Ma première question, c'est la première question que je me poserais à moi-même si je devais faire un podcast avec moi.
Ouais.
C'est, t'en as pas assez parlé déjà?
Ben, en fait, non. Pas comme j'ai envie d'en parler maintenant.
Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion. Pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchy. Musique, Dominique Hamel.
Je m'appelle Mathieu Ballet. Essentiellement au Québec, ce que j'ai fait, c'est le spectacle qui s'appelle Impro Chef. Mais sinon, dans la vie, j'ai été scénariste, j'ai été metteur en scène, j'ai une formation de comédien et actuellement, je suis au doctorat en sciences de la communication à l'Université de Montréal. Je fais plein de choses. Puis j'ai été un penseur fou en improvisation. Je le suis un peu moins. Ben oui, quand on est dans sa tête, ça s'en ressent dans le jeu et c'est pas un hasard si j'étais arbitre très longtemps. C'est-à-dire que pour moi, l'arbitre, il pouvait avoir ce recul. Ma frustration, c'est de m'être aperçu, notamment au Québec, que l'arbitre, on n'attend pas ça de lui. Alors que pour moi, il a un rôle de... Tu sais, je trouve ça hallucinant.
Ça dépend où il est, et dans quel contexte il est. Là.
Non, mais je trouve ça hallucinant d'avoir découvert que c'est seulement que depuis quelques années qu'il y a une espèce de partie de direction artistique qui est déléguée à l'arbitre.
Pour moi,
mais pour moi, l'arbitre devrait être au cœur de la démarche de la direction artistique parce qu'il peut donner une direction au match.
Ben, ça a toujours été le cas à la LNI, sauf que ça n'a jamais été... dit clairement. Fait qu'il y a du monde qui pouvait encore confronter cette idée-là. Là, depuis que Simon est arrivé, après, même pas au début, à sa première année, là, après 2-3 ans, on a dit c'est lui le metteur en scène de ce spectacle. Mais pas... On n'a pas dit c'est lui l'arbitre. C'est lui le metteur en scène et en plus, il est arbitre.
L'arbitre est un personnage. Mais l'arbitre a une dualité tellement compliquée dans le rôle... c'est-à-dire que à la fois c'est un personnage pour le public.
Ouais.
C'est-à-dire que dans mon idéal match, j'ai fini par comprendre que c'était juste mon idéal à moi et l'idéal de personne d'autre. C'est-à-dire pour moi le match entier est une fiction. C'est-à-dire si je voulais pousser la logique de la LNI jusqu'au bout, j'irais dans la fictionnalisation complète. C'est-à-dire qu'il y aurait des échanges de joueurs en cours de la saison. Il y aurait des changements de règlement.
On en a déjà parlé, mais tu sais, ça irait plus vers la WWE.
Ben un peu, mais il y a eu une époque, il y a eu un peu ça avec. Avec des vidéos des coachs qui préparaient la saison.
Ouais.
Il y a eu c'était des vidéos de Vincent Rouleau, je crois. Il y avait eu un peu de préparation puis qui allait dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut fictionaliser.
On a un ami écureuil.
Pour moi, il faut le fictionaliser encore plus. Et puis finalement, le match, c'est un prétexte pour donner du pouvoir au public, pour que le public soit important. Et puis, mais dans les faits, c'est pas ça. Et une des raisons pour laquelle j'ai complètement lâché l'arbitrage, c'est que les circuits où j'arbitrais, c'était les circuits secondaires. Secondaires, ça allait encore un petit peu, mais au collégial. Et au collégial, j'étais pas en présence d'un spectacle, j'étais en présence d'une compétition.
Ah, t'es en présence du cirque.
Avec les coachs qui viennent me voir à la mi-période en disant. Rappelle au public d'être impartial. Je dis, comment, le public il est impartial nulle part. D'ailleurs, ils viennent voir jouer leur chum, ils vont voter pour leur chum. Puis même dans une logique impartiale, c'est ils viennent voir parce que leurs chums les font rire. Puis sûr qu'ils vont plus rire aux gags de leur chum parce qu'ils les connaissent, puis parce que c'est leur code, qu'aux gags des chums. T'sais. Puis moi c'était terrible parce que j'ai arbitré beaucoup à la fin pour une équipe qui avait probablement au départ une réputation d'être une mauvaise équipe.
Ok.
Puis ils se sont construits un public, ils se sont renforcés. Puis là où les grosses équipes venaient gagner un match, elles commençaient à le perdre ou à faire des nuls. Puis les coachs, ils aimaient pas ça parce qu'ils étaient venus gagner leur match, quoi. Puis, je jette pas la pierre aux coachs ni aux joueurs parce que ça fonctionne comme ça le collégial. Et c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait c'est pas mes valeurs. Moi, c'est pas ce que je recherche. Il y a plusieurs matchs qui sont devenus complètement hors de contrôle parce que je savais pas quoi faire. Et des matchs qui pour moi, à mes yeux, se sont pas bien passés. Puis à un moment, j'ai fait OK, si un jour je refais de l'arbitrage, ce sera en posant clairement les consignes avant et puis de dire OK, ma vision, c'est ça. Et puis soit on embarque dans la même vision et puis c'est bien, soit je sais pas. Il y a un paradoxe, je voulais en parler aussi. Un paradoxe, je me souviens toujours, c'était l'équipe du Kremlin Bicêtre, les Kremlin Pro. Une fois, j'ai entendu une fois, j'ai entendu le coach dire ils ont plusieurs spectacles, plusieurs formats de spectacles, et ils ont un format qui s'appelle qui s'appelait à l'époque les cariatides. Donc qui est très inspiré du cercle des menteurs comme un pro chef. Moi, un pro chef, c'est revendiqué. J'ai demandé l'autorisation au créateur du cercle des menteurs d'utiliser son concept. Je le mets parce que pour moi c'est important chez les auteurs. Mais c'est un concept proche. Et j'entendais le coach dire à des joueurs débutants, bah non, tu sais, t'es pas encore prêt pour les cariatides. Fais tes armes dans le match. Et pour moi c'est un non-sens.
C'est contraire, ouais.
Pour moi c'est un non-sens. Le match, c'est pour des gens qui sont rodés. C'est les matchs qui ont des gens qui ont besoin de contraintes supplémentaires.
Ouais.
Parce que une bande, parce qu'un arbitre qui théoriquement sifflait pune pendant les impros, à la fin, pendant les impros.
Simon n'était pas capable. Il le fait pas.
Non, mais ça fait des années qu'ils le font plus à la LNI.
Non, ça fait depuis Simon.
Ah, j'ai pas souvenir d'avoir vu Alexandre ou Cybèle le faire, par exemple.
Mais il l'oubliait peut-être, là, mais disons que Simon, lui, c'était. Je suis pas capable.
Mais
même, en fait, siffler les impros, il est pas capable. Il est pas capable de faire le gazou. Mais quand.
Tu vois, mais pour moi, c'est ça. Le match, c'est un. Théoriquement, c'est. C'est de l'analogie que tu donnes. C'est un moment, tu patines. Apprends à patiner avant d'apprendre à faire un match de hockey. C'est-à-dire, si tu viens pas sur tes patins, va pas dans une patinoire. À la première mise en échec, tu vas voler. Et puis, même si le match est bienveillant, tout à fait amical, tu vas t'en manger des mises en échec. Tu vas en prendre.
Mais tu sais, concernant l'arbitrage, là, tu sais, il y a une affaire de contexte, là, tu sais. Je veux dire, tu t'arbitres au niveau secondaire, ben là, t'as un rôle pédagogique. Tu essaies de faire passer des informations, puis pour qu'elles passent. Après ça, dans d'autres contextes, moi, je vais voir des arbitres, c'est complètement spectacle. Leur but, c'est d'être d'avoir des votes plus que les joueurs, quasiment. Mais après ça, c'est ça, tu sais, c'est toujours... Oui, c'est un rôle ingrat, mais même que moi, je l'ai fait souvent, puis à chaque fois, j'ai arrêté de le faire parce qu'à chaque fois, je me disais, pourquoi je suis pas en train de jouer? Parce que c'est ça que je veux.
C'est un rôle différent.
Ouais.
Mais à une époque, je pensais vraiment le rôle d'arbitre comme... Je disais, le match idéal, c'est le match où tu me vois pas. Et puis un jour, il y a un improvisateur français que j'aime beaucoup, qui est vraiment quelqu'un qui m'a donné probablement les meilleures formations que j'ai reçues en France, qui est Christian Gage, qui jouait justement dans le cercle des menteurs. Qui m'a dit, mais tu fais partie du spectacle, que tu le veuilles ou non, donc accepte.
Ouais.
Si le public a envie de te voir, si le public a envie d'interagir avec toi, te dérobe pas, interagis avec lui. Et du coup, j'ai accepté cette dimension-là. Mais c'est vrai que ça dépend des contextes. Moi, il y a des matchs où je donnais des idées aux joueurs en réserve pour que le show fonctionne.
Ouais. Ah, écoute, j'en ai vu. Je me souviens de Christian Baumann que le personnage, il vous devait creuser un trou, puis il se lève, il est arbitre, il se lève, il passe une belle. C'est, ouais, là, c'est un peu trop, mais bon.
Il y a Jean-François Wendling en France aussi, Jean-François Wendling qui est un arbitre qui est très, très présent, qui occupe une grosse partie du spectacle. Puis à un moment, à une époque, j'avais du mal à comprendre. Mais maintenant, tu vois, avec le recul, y a des gens qui venaient le voir lui, qui venaient pas t'en voir les impros, puis il faut aussi qu'ils aient ce qu'ils veulent. Ça, c'est pour moi, il y a une différence super importante. Il y a l'impro que j'aime faire, les impros que j'aime faire, l'impro que j'aime voir, ce qui n'est pas forcément la même. Puis il y a des tonnes de spectacles, ça me tente pas de les voir.
Ah, c'est clair, mais non, mais ça, c'est
pour du public.
N'importe quelle heure, hein. Je veux dire.
Il y a des gens qui supportent pas le jazz, puis.
Complètement. Je veux dire, au niveau graphique, au cinéma, en littérature, je veux dire, il y a tellement... Tu sais, plaire à tout le monde, c'est impossible, là, donc...
Tu sais, à une époque, j'avais cette prétention un peu de il faut éduquer le public. C'est comme s'il y a un public à éduquer.
On est tous passés par là.
Qui avait la bonne impro et tout. Et puis, maintenant... en tout cas, c'était une partie de ma démarche avec un pro-chef. J'essaye de faire de l'impro. J'essaye de laisser un espace à l'impro que j'aime. Alors bon... Juste avant le début du confinement, il y a une petite crise de questionnement sur un pro chef. Puis je voulais re-questionner. Avec la fermeture d'un pro Montréal et la pandémie, de toute façon, il va y avoir un questionnement avant de relancer le spectacle. Mais j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire, puis de voir comment ça vit. Et puis après, les autres spectacles font ce qu'ils veulent. Et puis si les autres spectacles ont du succès, super, formidable.
Ouais.
magique pour eux. Puis que j'aime ou j'aime pas leur spectacle, c'est pas important, c'est pas ça qui fait la différence. Puis c'est pas ça qui fait que c'est de l'impro ou pas, ou de la bonne impro ou pas.
Ah oui. Ah non, tout est là, faut que c'est... Mais d'ailleurs, ImproChef, comment ça fonctionne?
Donc, ImproChef, c'est vraiment inspiré très fort du Cercle des Menteurs. J'ai juste changé le décorum, l'habillage, parce que le Cercle des Menteurs était avait un décorum très... très verbomoteur. Il y avait un serment de la fiefée confrérie au début, il y avait une présentation de chacun des membres avec un petit texte répété, donc quelque chose qui était très dans les mots, très dans la littérature, et que j'ai pas senti vraiment en adéquation avec la culture de l'improvisation au Québec. On va dire ça comme ça. Donc je l'ai un peu dépouillé de ça, mais sinon le principe c'est toujours le même. Les spectateurs écrivent des mots qu'on met dans une urne. Bah, moi, c'est un saladier parce que c'est ImproChef, donc on a dérivé. On est 5 sur scène théoriquement, dont un maître de cérémonie, mais qui joue aussi. Comme ça évite, comme tu disais tout à l'heure, la question pour l'arbitre, que le maître de cérémonie essaye de faire son show parce qu'il aimerait bien jouer aussi.
Ouais.
Il joue aussi.
Okay.
Donc le maître de cérémonie pige un mot, demande qui dans le public a proposé le mot. Pendant ce temps-là, tous les comédiens réfléchissent un petit peu à qu'est-ce que le mot leur inspire. Il y a un court échange avec la personne qui a proposé le mot, qui est généralement laissé pour un caucus interne. Puis ensuite, à leur tour, chacun des comédiens propose un court début d'histoire. Et lorsque tous les débuts d'histoire ont été présentés, la personne qui a proposé le mot va choisir l'histoire qui continue.
Okay.
Donc théoriquement, on reprend l'improvisation exactement avec le même début. Il y a un noir scène, on rallume la lumière. Et alors, dans le meilleur des mondes, quand on a des gens à la musique ou aux lumières qui maîtrisent bien les codes du spectacle, et Impro Montréal, on avait la chance énorme d'avoir Kyle Alat, avec qui c'était vraiment le sixième joueur, vraiment. Il a participé à des impros. Et donc, c'est lui qui décide quand on coupe. C'est-à-dire, il fait le noir, puis ça coupe la scène, puis on repart. Puis de temps en temps, on introduit des petites variantes qui correspondent un peu les catégories du match, un auteur, ce genre de choses. On propose des ambiances musicales, donc le public choisit pas entre des débuts d'improvisation, mais des ambiances musicales. Donc.
C'est l'aspect menu à la carte.
C'est l'aspect menu à la carte, et ce qui est super intéressant et que j'ai fini par constater, c'est que c'est vraiment les histoires qui se mettent en avant.
Okay.
C'est-à-dire que j'ai très rarement des joueurs qui collent dans les impros, qui restent, qui n'ont rien à y faire. Quand t'as rien à faire, tu sors de scène. Puis c'est pas cool. Puis, donc on essaye vraiment de bâtir une histoire. Et puis, j'ai toujours essayé d'équilibrer les équipes, de voir quelle énergie. Ça m'est même arrivé une ou deux fois de me sortir d'une équipe parce qu'au vu des joueurs qui étaient disponibles, c'était pas de moi dont on avait besoin le show. C'est assez curieux comme positionnement, hein, mais je me suis dit non, là, il y a besoin d'un joueur plus flamboyant que moi. Donc, je vais me sortir. Puis, puisque telle personne est devenue disponible, je vais le mettre dans le mix. J'essaye de jouer, hein, c'est quand même aussi un show pour que je puisse jouer. Mais,
c'est pas mal la source de toutes les créations de spectacles, tu sais. Comment je vais jouer? De répondre à un besoin de jouer.
Bah oui, non, mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé au Québec, puis je suis arrivé comme beaucoup de Français naïfs, dont vous parlez parfois dans le podcast. Je me suis dit, je fais de l'impro, puis j'ai des contacts avec toutes les équipes qui viennent en tournée en France, j'ai des contacts.
C'est facile, je vais jouer tous les soirs de la semaine.
Oh non, j'avais même pas prévu tout ça, mais bon, j'ai découvert la magie des camps de recrutement.
Ouais.
Et puis, j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre que dans un camp de recrutement, il n'y a pas que le niveau qui compte, il y a aussi... on va dire, tu sais, tu vas passer 20 soirs de ton année en compagnie de quelqu'un. Mettons que faut pas seulement qu'il soit bon en impro ou pas bon en impro, faut aussi que tu aies du fun avec lui.
Ouais.
Et probablement que je suis pas le gars qui dégage le plus de fun du monde.
Arrête.
Y a des choses de cet ordre-là. Puis peut-être vraiment le fait que d'avoir été, ça c'était il y a 10 ans, d'être encore beaucoup dans l'analyse, ça me rendait pas le gars le plus fun du monde non plus. Pour des gens qui ont, tu sais, envie de boire une bière en faisant de l'impro, puis avoir du fun. Puis c'est correct d'en faire comme ça.
Oui.
C'est ben correct. Donc j'ai un peu mes désillusions des camps de recrutement. Bah, j'ai fait une année à la petite ligue d'improvisation classique, parce qu'il y avait autant de joueurs que de places dans le camp, tu sais. J'étais last pick, donc je l'ai su, je suis pas vraiment très adroit du coach de me l'avoir signalé à un moment.
Ah.
Peut-être dire à deux joueurs, vous savez, vous étiez les last pick, personne ne voulait de vous. Bah écoute, je suis content que tu me l'aies dit.
Yeah.
Ça me... Mon année à la petite ligue, c'est pas super bien passé.
Mais tu sais, quand tu coaches cette ligue-là, je sais pas, je me dis, ton choix, tu sais, il y a de la place, mais tu décides de coacher. C'est parce que t'as peur d'être...
Je sais pas. Écoute, j'ai eu beaucoup de fun dans mon équipe. J'ai pas eu tout le temps de fun dans la ligue, mais j'ai eu beaucoup de fun dans mon équipe. D'ailleurs, mon capitaine, il a fait partie des piliers qu'on commençait à un pro-chef parce que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Puis j'ai vraiment des très beaux souvenirs de cette équipe-là en comparé. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire. Mais bon, quand on m'a demandé si je voulais repartir l'année suivante, j'ai bien compris que même si je voulais repartir, c'était pas dit que je trouve une place. Puis bon, bah ça me tentait pas trop. J'ai commencé à comprendre la dynamique. Puis en même temps, bah à l'époque, je voyais ce que tu faisais avec Saint-Place, par exemple. Et puis un jour, j'en ai parlé à Alexandre Cadieux un peu. Puis je lui disais, ça c'est sûr que c'est le genre de spectacle, ça me ferait triper de jouer dedans. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, peut-être qu'un jour tu vas créer ton spectacle, puis c'est nous qui aurons envie de jouer dedans. Alors nous qui avons envie de jouer dedans, je l'ai mis de côté parce que je... Non mais je veux dire, si j'étais un génie de l'impro, un gars magique, super impressionnant et tout, peut-être que les gens ont envie de jouer avec moi, mais à ce point-là, mais tu sais, je suis raisonnable sur ce que je produis sur scène, tu vois, j'essaye d'être en accord avec moi-même, c'est déjà beaucoup de boulot. Voilà, mais et à partir de là, je me suis dit, bah tiens, si je crée ce show-là, puis j'ai été récupérer des joueurs que je connaissais. Parce que je m'entendais bien avec eux, parce que je les avais arbitrés pour Marie-Joëlle Baudouin et Catherine Cléroux. Benoît H, qui était à l'époque à la semi-illustrée, avec qui je m'entendais bien. Et Mathieu Normando, qui était mon capitaine à la petite ligue d'improvisation classique au départ. Puis voilà, c'est avec ce noyau-là qu'on a monté un pro-chef. Puis on a joué notre truc, quoi. On a trouvé de la place à un pro-Montréal, qui était une vraie chance, parce qu'on jouait pas dans un bar, parce qu'on jouait dans une vraie salle, avec des gens qui venaient voir juste de l'impro.
D'ailleurs, juste une petite parenthèse sur Benoît H. Quand je jouais en secondaire 3, je faisais partie de l'équipe 4 et 5. J'étais comme fou comme un balai, là. Et j'étais le petit de l'équipe qui jouait avec les plus vieux. Puis on était allé à Sophie Barra. Puis Benoît H jouait à Sophie Barra. Mais lui, il avait déjà la carrure qu'il y a aujourd'hui et il avait une grosse moustache. Puis moi, je ressemblais, j'avais encore l'air de 12 ans. Puis je disais, je veux pas jouer avec le monsieur. Bref, fin de la parenthèse. Mais comment on fait pour gagner un pro-chef?
mais tu rigoles, mais il y a des. Je me suis retrouvé dans des situations avec des joueurs invités qui avaient une espèce de compétition au niveau des débuts d'impro. Je veux que mon début d'impro soit choisi.
Mais c'est inné, c'est.
Puis c'est des gens, dans ces personnes-là, il y a des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup humainement à côté. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne les ai pas forcément réinvités sur le show. Parce qu'il n'y a pas de compète, parce qu'on essaye de faire des histoires. Puis on essaye de proposer des histoires qui plaisent au public.
Mais c'est un réflexe, là. Je veux dire, ce muscle-là au Québec est surdimensionné.
Ah, bien sûr.
Tu sais... On ferait le concours de les gens, pas un concours, mais on monte sur la table. Là. Ils vont essayer de monter plus vite.
Tu as une dimension d'ego. Je veux dire, je pense que à peu près tous les joueurs réguliers d'un pro-chef ont vécu ce moment où, à un moment de la soirée, ils font il n'y a aucun de mes débuts d'impro qui a été choisi. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors que ce n'est pas forcément qu'est-ce qui ne va pas. Puis un pro-chef nous met aussi. Ah, ça, c'est un truc très, 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 très intéressant. Il nous met le nez dedans. T'as eu une idée d'un jeu de mots super drôle, t'as fait ton punch.
Ah ouais,
puis la personne a fait.
C'est classique.
Je veux voir cet impro-là. Il fait ouais, mais c'était juste le punch en fait. Ouais, mais maintenant il va falloir construire dessus.
Mais je pense pas que leur réflexion va aussi loin que regarde l'erreur que t'as fait, on va te mettre dans la merde.
Il y en a.
Moi, en fait, ma réflexion c'est plutôt sur laisser le choix au public. C'est des fois ça fait mal parce que ils font pas ils font pas le choix le plus dramatiquement le plus intéressant ou
mais tu vois là on a une part de responsabilité, c'est-à-dire que si on veut pas qu'ils choisissent des débuts de merde, on n'a qu'à pas en faire, tu vois. Il y a cette dimension-là ouais. de... Ok, tu sais qu'ils choisissent... ok, tu sais que le public, il va choisir un punch. Ben, si tu fais un punch, c'est correct. Mais sois prêt, qu'en plus, c'est toi qui vas la commencer derrière. Donc, sois prêt à bâtir derrière.
Ben, les souffleurs... pas les souffleurs au gradin, mais les architectes à Québec... qui aussi ils ont les thèmes dans un bol, en fait, des suggestions du public dans un bol. Puis, tu sais, la première fois que je suis allé jouer avec eux, je pense que dans la soirée, on a eu 3 fois Star Wars. Puis je fais... quand tu donnes ça au public... Puis, tu sais, en tant que comédien, tu sautes à pieds joints dedans, puis là, eux autres, ils voient que ça fonctionne, fait qu'ils vont le remettre.
Et... Nous, on a eu beaucoup Trump à une époque. À l'époque de la première élection présidentielle, on a eu beaucoup, beaucoup Trump. Ouais. On a des mots d'actualité qui reviennent.
Ouais.
On a beaucoup d'aliments, mais ça, c'est dû à un pro-chef. Le Cercle des Menteurs, parce que j'étais un assidu, j'allais voir extrêmement souvent le Cercle des Menteurs. Il y avait beaucoup mensonges, honnêteté qui revenaient. Ou cacahuètes. Je ne sais pas pour quelle raison, cacahuètes revenaient beaucoup.
C'est des running gags des fois de spectacle. Mais donc, tout qui écoute ce podcast, combien de réponses as-tu à qu'est-ce que tu n'as pas fait encore jusqu'à maintenant que tu aimerais faire?
Oh, j'en ai des dizaines, des milliers, et ça change tous les jours. Par exemple, tu vois, Parc, qu'est-ce que j'aurais aimé faire partie du projet de Parc? Vraiment.
Écoute, peut-être un jour, on va ouvrir le parc.
Non, mais tu vois, Parc, Saint-Place dans les décors d'eux, c'est des choses qui sont super intéressantes. Il y a, à une époque, un Pro Montréal, il y avait 50-50. C'était un spectacle avec, d'un côté, un comédien qui avait appris les répliques d'un texte, et en face, quelqu'un qui improvisait entre les répliques et qui essayait de créer une scène qui se tienne. J'adorerais faire ça. Puis l'impro, elle n'est pas que du côté de l'improvisateur, parce que la personne qui a les répliques, la façon dont il va livrer ses répliques, les intentions, c'est super intéressant. Je l'avais vu une fois en anglais, j'avais adoré ça. J'adorais un truc un peu fou aussi. Je ne sais pas si tu connais Augusto Boal.
Oui.
Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Le théâtre de la pauvreté. Ouais. Pardon, ça c'est Grotowski, excuse-moi. Ah, le théâtre de l'opprimé.
Ouais.
À une époque, il avait un projet complètement fou, très inspiré par des vues politiques communistes, qui était une pièce de théâtre où personne n'était propriétaire des répliques. Tous les comédiens connaissaient toutes les répliques et pouvaient les dire quand ça leur tentait. Tu vois, c'est de l'impro, parce que clairement, ce qui va se passer, c'est de l'impro. Ah, qu'est-ce que je trouverais ça magique de voir ça, de faire ça. Je sais pas, parce que je me dis que la plupart du temps, ça doit être un chaos innommable, mais une fois de temps en temps, il doit y avoir un truc magique qui se passe.
Ouais.
Il y a mille choses à faire en impro, en variant. Tu vois, c'est le fait que sur Parc vous ayez une scénographe, que vous l'impliquiez, que vous. Le fait que. Par exemple, quelque chose qui est induit très fort dans le match auquel on pense pas souvent, c'est qu'on est poussé à commencer quasiment en face de l'autre.
Ouais.
Un en face de l'autre, en face à face. Et il y a quelque chose que j'ai fait beaucoup quand j'ai animé des ateliers, sur les quelques ateliers que j'ai animés, que je forçais les gens à commencer dans des positions différentes.
Mm-hmm.
Dos à dos, une personne assise, l'autre debout, côte à côte, pour voir juste les dynamiques. Et les dynamiques changent complètement. Hein, au lieu d'être dans une dynamique d'affrontement et d'opposition, au lieu d'être tenté par ce qu'on voit beaucoup en improvisation secondaire. Bonjour. C'est normal, t'arrives face à face à quelqu'un, c'est la rencontre.
C'est le réflexe.
C'est l'intérêt d'un pro-chef aussi, c'est que théoriquement, un pro-chef, on donne un court début d'improvisation. Donc, quand on commence l'improvisation, on est au cœur du truc. On n'est plus sur les bonjours, on n'est plus sur. On essaye que nos débuts d'impro soient au cœur de l'action.
Mm-hmm.
Pour éviter ce décantage du début, puis prendre des risques. Donc, tout ce qui est. Quand Parc s'est élargi à une scénographie complète et comment est-ce qu'on l'apprivoise. Je trouve ça super intéressant.
Mais quand je te dis que peut-être un jour tu pourras jouer dedans, dans le sens où, tu sais, les gyms où il y a où les gens s'entraînent à faire du parcours, j'aimerais ça, moi, avoir, tu sais, mon endroit, mon studio où il y a les corps de Parc en permanence, peut-être encore plus de modules, où tu fais que. Toutes mes formations sont données là-dedans. Et que les gens puissent même faire avec Impro Chef, on veut juste s'entraîner un peu pendant 2 heures ici.
Mais tu vois, la distribution, elle importe aussi. C'est-à-dire que j'aurais très envie de jouer avec des gens comme toi. Sur un atelier, j'avais mentionné Salomé Corbeau. Parce que Salomé Corbeau, il m'a semblé, de mon regard de spectateur et d'analyste d'estrade, que c'était quelqu'un qui décidait pas à l'avance si l'impro devait être drôle ou pas, qu'elle allait laisser vivre, puis qu'elle allait là où l'histoire l'amenait.
Non, faut tout faire pour elle.
Je te laisse la responsabilité de ça. Tu vois, ou des gens... Moi-même, je pense à des improvisateurs français. J'ai cité Christian Gage derrière, mais Christian Siniger, qui a monté le Cercle des Menteurs. Tu vois, il y a envie de jouer aussi... aussi de jouer avec des... Moi, je suis content des équipes et des gens avec qui je joue, mais toi, ta fois, t'as envie de te confronter à d'autres univers, puis t'as envie de... C'est pour ça, tu vois, jouer parc avec le casting que t'as amené, oui, c'est super. Explorer ça, voir ce que ça fait. Et c'est pour ça que quand tu dis, tu sais, un jour, pas sûr que je sois un jour assez connexe avec ces gangs-là, puis c'est correct.
Mais il faut... Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens où je me dis... Il y a des circonstances qui font que... Ben, je pense qu'en avançant, il faut qu'on puisse mélanger le plus de monde possible sur la scène. Il faut qu'on leur permette... Tu sais, moi, je les ai choisis, ces gens-là.
Ben, oui, je sais bien.
Je voulais ces gens-là parce que... En fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais tu sais, je pense que... Mais probablement. Mais... Je pense que Parc peut être joué par à peu près n'importe qui, mais là, j'avais besoin de gens qui allaient incarner le projet.
Non, mais tu sais, je comprends tout à fait. Et puis, tu sais, tu parlais tout à l'heure des anglo-saxons. J'ai lu un petit peu un certain nombre d'auteurs et il y a une chose que je retiens absolument qui, pour moi... le truc le plus important et qui est l'incarnation de beaucoup de problèmes que j'ai vécu, notamment autour du match en France, c'est ça vient d'Alclos, c'est de Truth in Comedy, c'est le principe numéro 1, c'est qu'il faut qu'on joue à la même chose.
Ouais.
Et c'est normal que quand tu montes un projet comme Parc, ben, tu vas t'entourer de comédiens avec qui tu es à peu près sûr que vous avez la même définition globale du truc.
Ouais, puis tu sais, que j'étais confiant que ces gens-là allaient rendre le but de l'exercice, c'est-à-dire se laisser imprégner par la proposition scénographique pour jouer, plutôt que de se servir de la proposition scénographique, il allait plus la recevoir. La nuance est mince, ça?
Non, mais je comprends. C'est une des raisons pour laquelle j'ai souvent été hostile à la présence d'accessoires en improvisation.
Mm-hmm.
Parce que j'ai, de l'expérience que j'ai vue, souvent quand on met un accessoire, l'accessoire devient un gadget dont on sert. Et au lieu de servir l'histoire, elle la détourne. Ouais. On se sert juste du gadget. Et j'ai été très réticent... Même quand Impro Montréal a changé son décor et qu'ils ont rajouté une fenêtre et une porte, ouais. Au départ, j'ai eu très très peur en me disant « qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, je suis super content parce qu'on s'en est servi, mais on s'en est servi organiquement. On s'est pas dit « oh chouette, il y a une fenêtre, on va faire plein de trucs avec la fenêtre parce que c'est drôle de faire plein de trucs avec la fenêtre. » On a fait des trucs drôles, mais quand ça servait les histoires. Tu vois, c'est pour ça que je suis assez content de mes comédiens. Mais, et je crois beaucoup à la nécessité quand tu fais un spectacle et quand tu montes une équipe et que tu as le pouvoir de monter une équipe, de cette idée d'organicité, de synthèse. Tu vois, je vais te confier un secret. À une époque, vous aviez, pour je ne sais plus quel spectacle de l'Instable, vous aviez besoin du créneau horaire d'Impro Chef. Parce que vous aviez joué un certain nombre de soirées. Et Impro Montréal m'a demandé si j'étais prêt à décaler plus tôt, à jouer plus tôt que d'habitude, pour vous laisser la place. Et il y a quelqu'un que je n'aimerais pas, qui a mis l'idée, « Oh, mais tu sais, peut-être que tu pourrais en profiter pour que, entre guillemets, en échange, tu demandes à Frédéric s'il voudrait jouer dans Impro Chef. » Et j'ai dit non. Non, parce que, soyons clairs, je rêve de jouer avec toi.
Ah ouais.
Mais je veux que tu aies envie de ça. Je veux pas que ce soit une demande ou un retour d'ascenseur.
Ouais.
Je veux que le jour où ça se produise, ça se fait « Ok, Mathieu, tu sais quoi, ça me tente de jouer avec toi. »
Ouais.
Donc, j'avais pas envie que ça se fasse dans ces conditions-là. Donc,
Je comprends. Puis en plus, tu sais, c'est... des shows back-à-back souvent.
Ouais, mais ça aurait pas été forcément celui-là, ça aurait été un autre, ouais. Si tu veux, mais
en même temps, cette personne-là a pas si tard que ça, parce que me connaissant, tu sais, je veux dire, ça m'en prend pas beaucoup pour dire oui.
Non,
Ça veut dire, est-ce que je suis disponible? C'est souvent ça.
Elle a pas tort, mais c'est pour t'expliquer un peu la dynamique aussi. Tu vois comment je comprends, comment tu fonctionnes tes équipes. Et c'est pour ça que, tu sais, je vois le bassin de joueurs que tu as à disposition. Je vois le nombre de personnes avec qui tu es proche.
Je sais que j'ai une chance incroyable.
T'as des tellement de beaux joueurs. Juste en citer quelques-uns, mais justement, Joël Paré-Beaulieu, Mathieu Lepage, Salomé Corbeau, Amélie Geoffroy, pour juste voir quelques personnes que j'ai vues dans le théâtre de l'Instable, qui sont pour moi des joueurs avec qui j'aimerais jouer profondément. Pourquoi t'irais choisir Mathieu Mallet? Je veux dire, t'as pas de raison. Tu vois, t'as pas de raison.
Mais si tu savais, oui, j'en ai des raisons. J'en ai des raisons.
Mais pas un projet comme ça, tu vois.
Ouais, ben non, mais écoute, invite-moi.
Pour parler d'un autre de mes projets fous qu'on n'a pas encore évoqué et qui est intéressant à évoquer. Attention, c'est le moment où on parle d'hypnose.
Je me tiens.
En fait, j'ai...
Ça, par exemple, je t'écoute.
Voilà.
Je t'écoute.
J'ai fait mon mémoire de maîtrise en communication sur certains aspects communicationnels de l'hypnose. Puis ça m'a amené à lire beaucoup, beaucoup de littérature scientifique. Hein, pas un célèbre improvisateur de spectacle qu'on voit beaucoup à la télévision au Québec et en France, pas des gens qui font du coaching ou qui proposent des séances d'hypnose pour arrêter le tabac. Il y a des études qui montrent que ça peut aider arrêter de fumer, l'hypnose, donc je veux pas, mais vraiment des trucs, des travaux en psychologie, en neurologie, des trucs avancés.
Ouais. Mais Mathieu, pourquoi tu balances ce médaillon devant mes yeux?
Écoute-moi, tu veux jouer avec moi, Frédéric, tu veux jouer avec moi. Et puis je me suis dit, ça serait super intéressant de voir comment juste le fait d'être hypnotisé change la façon dont les gens jouent.
Ouais.
Et j'avais très envie d'essayer ça, sauf qu'évidemment, le concept de dire à des gens « Allez, venez voir un show, ils sont hypnotisés, mais juste ils vont faire de l'impro comme d'habitude », je ne le sentais pas très vendeur. Donc évidemment, j'ai conçu un certain nombre de jeux, y compris un certain nombre de choses qui ressemblent beaucoup à ce que tu fais dans Dompteur, pour agrémenter ça. Et puis j'avais envie de le tester, donc j'ai monté une équipe avec à la fois des gens que je connaissais qui étaient réceptifs à l'hypnose, puis à la fois j'ai fait des auditions à Impro Montréal avec les gens d'Impro Montréal, en étant tout à fait transparent sur le fait que la suggestibilité est une qualité très importante pour participer au projet. C'était un peu la base du truc.
Juste pour les communs des mortels là, l'hypnose, je veux dire, il y a quelque chose de mettre la personne sur le pilote automatique un peu, non?
C'est pas vraiment sur le pilote automatique parce que...
J'avais déjà entendu... En fait, c'est Stuff You Should Know, j'avais écouté là-dessus, là, où il parlait comme un peu comme quand tu roules en voiture puis ça fait comme 4-5 lumières que
Pour simplifier beaucoup...
Oui, merci, s'il vous plaît.
Il y a un modèle en hypnose qui dit que il y a plusieurs processus dans ton cerveau, et il y a un processus qui sert à contrôler ce que tu es en train de faire, et un processus qui sert à un processus de contrôle, un processus d'exécution. Puis de temps en temps, ces processus ils sont déconnectés. Quand tu conduis, tu fais pas attention à la pédale, et même des fois tu sors de chez toi, tu fais 50 mètres, tu fais est-ce que j'ai fermé la porte ou pas, je me souviens pas, parce que tu l'as fait
en
automatique. Donc l'hypnose te permet de jouer un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que il y a des choses que tu vas faire sur lesquelles tu vas avoir le sentiment de ne pas avoir de contrôle. Mais c'est le sentiment, c'est-à-dire ultimement tu as le contrôle sur ce qui se passe, c'est toi. En fait, l'hypnotiseur, il n'a pas de pouvoir, il hypnotise personne, c'est la personne qui fait les choses parce qu'elle l'accepte de façon plus ou moins consciente de jouer le jeu. C'est-à-dire que Mesmer, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne m'hypnotisera pas. Si je ne veux pas qu'il m'hypnotise, il ne m'hypnotisera pas. Okay. Inversement, Derren Brown, qui est un hypnotiseur anglais, le jour où j'ai eu la possibilité d'être hypnotisé par lui, ça s'est fait d'une vitesse juste parce que j'avais tellement envie que ça se passe.
Ouais.
Et le moment où il m'a fait slip et je suis parti, j'ai fait oh, dans ma tête, je me disais ah oui, aussi vite, tiens, Mathieu. Mais donc c'est quelque chose comme ça. Mais plus largement, il y a une idée de que tu connais, tu te reconcentres sur toi, tu reconnectes peut-être plus. C'est vraiment une idée de concentration et d'attention. Milton Erickson, qui est un nom qu'on retrouve beaucoup dans l'hypnose, il avait hypnotisé comme ça une personne sur une scène de spectacle qui est assise sur une chaise. Il demandait « Où est-ce que t'es ?» Et la personne disait « Sur une chaise. » « Ok, mais la chaise est où ?» Et en fait, à chaque fois qu'il posait des questions, il élargissait son centre d'attention. Donc il y a cette idée de quelque chose d'hyper précis, hyper focus avec l'hypnose, et que ben, chez les improvisateurs avec lesquels on a fait Melchior, ça se retrouvait. Ils avaient une précision. Ça peut être bêtement sur les objets qui sont posés. C'est une vanne qu'on a avec une improvisatrice, coucou Marion, elle avait fait une improvisation en buvant un café. Puis quand elle a sorti de l'improvisation, elle s'est assise à côté de moi. Puis elle continue à faire le geste de tenir le café.
Ouais.
Elle n'a pas lâché le geste, puis elle le tenait. Et c'est ça, il y a une concentration.
Mais ça, je l'ai vu.
Oui.
J'ai vu des gens, tu sais, dans le match, mettre en réserve puis tenir leurs objets imaginaires encore.
Mais ultimement, je pense qu'il y a des états sur scène, en théâtre, en musique, qui sont des choses qui ressemblent beaucoup à ce que tu peux vivre en hypnose.
Ouais.
Des états de justement où tu es dans le moment à moment, où tu réfléchis pas, où tu es complètement connecté avec toi-même. Donc, c'est juste que bah, c'est des moments rares. Moi, effectivement, c'est des moments que je recherche en impro, hein. Ce moment de grâce où tu reviens, où à la fin de l'impro, tu fais « c'était génial, je suis pas capable de te dire ce qui s'est passé, mais c'était génial
».
Moi, c'est l'impro que je recherche, c'est l'impro dont je rêve. Puis elle est difficile à trouver, mais des fois, quand on la trouve… Oh, yeah. Et puis, c'est pour ça que l'impro de bar, où le but du jeu, c'est de boire une bière entre potes, ça me convient pas trop dans la démarche, parce que c'est pas trop un endroit où tu vas chercher ce moment-là.
Elle est bonne après, la bière aussi. Aux gens qui nous écoutent, là, la bière d'après est aussi bonne que pendant.
Piche.
J'ai
vraiment tout ce que je pouvais avoir éventuellement comme rancœur, comme animosité par rapport à ça. C'est vraiment loin derrière moi. C'est super cool, je veux dire. Formidable.
Mais... moi, je pense avoir quand même touché à quelque chose. Tu l'as dit tantôt avec Donteur, là, qui doit avoir des liens avec l'hypnose parce que, tu sais, souvent je le décris, c'est comme Mesmer, mais moi je fais pas semblant. je veux dire, j'ai eu des comédiens qui m'ont tellement fait je m'abandonne, vas-y, tu sais, puis je les dirige en direct. Et j'ai vu des choses extraordinaires, tandis qu'il y en a d'autres que je sens la retenue. Puis là, il faut que je travaille, puis je fais comme relâche. Mais il y a quelque chose de... Je pense qu'il peut être satisfaisant pour le comédien de faire « je m'abandonne ».
Il y a une protection extraordinaire qui existe à la fois dans Dompteur et à la fois dans l'idée de l'hypnose. C'est que si c'est pas bon, c'est pas la faute du comédien.
Ouais.
Si c'est pas bon, c'est ta faute à toi dans Dompteur, parce que c'est toi qui les domptais. Et si c'est pas bon, bah tu sais, ils étaient hypnotisés, donc c'est pas vraiment. Et ça, dès le moment où t'es protégé, bah il y a des choses que tu lâches. Il y a des choses que t'oses faire complètement. Les plus beaux compliments que j'ai entendus après Melchior, c'est des gens qui connaissaient des personnes sur scène et qui me disaient, oh là là, Fred, j'ai jamais vu jouer comme ça.
Ouais.
Et ça, yeah. C'est ça qui me montrait que, ok, il y avait un truc intéressant de Melchior. Plus que de leur dire, il y a des trucs rigolos, parce que toi, par exemple, dans Monteur, tu peux faire, t'as les pieds collés au sol.
Ouais.
Mais tes improvisateurs vont jouer qu'ils ont les pieds collés au sol. Alors que dans Melchior, ça va devenir leur nouvelle réalité. Ils vont même pas avoir à se poser la question de comment ils l'intègrent ou autre. Ça va exister.
Mais dans Dompteur, ça arrive, ça aussi.
J'en doute pas.
Parce que souvent, si je vais dire « t'as les pieds collés au sol », c'est parce que je le vois déjà.
Mm-hmm.
Puis si je le vois déjà, c'est parce que c'est chez eux.
Mm-hmm.
Puis donc, et même des fois, dans des formations, je vois quelqu'un piétiner.
Mm-hmm.
Je fais « attends, stop, j'arrive, je sors une drill imaginaire.
Oui. »
Je fais « vite, vite. » Puis là, je fais « tes pieds sont vissés au sol. » Et je te jure, ils bougent pas. Parce que j'ai fait le geste, ils sont. Là, même tu fais comme. Ton pied est plus déplacé un peu.
Le pouvoir de la suggestion.
Oui. Mais. Oui, c'est ça. T'sais, même sans céder ou sans les avoir dans le quoi, en état d'hypnose.
C'est compliqué. On va dire état d'hypnose, mais c'est compliqué. Ouais. Le mot état fait polémique ouais. dans les milieux de l'hypnose. C'est, on parle de suggestion plus que d'état, mais bon.
Okay, okay.
Pour simplifier, on peut parler d'état d'hypnose.
Mais je veux dire, est-ce que les gens dans les comédiens, dans Dompteur, sont dans un état d'hypnose, un état de suggestion?
Alors, ils sont probablement, on a probablement affaire de la suggestion non hypnotique, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que tu n'obtiens pas des résultats foncièrement différents entre l'hypnose et la suggestion.
OK.
La différence, ça va être dans le sentiment de contrôle. C'est-à-dire qu'après Dompteur, tes comédiens vont plus avoir vont plus avoir tendance à dire « Non, mais... j'ai choisi de garder les pieds au sol. T'sais, j'avais bien conscience que je pouvais les décoller à n'importe quel moment, mais j'ai décidé de continuer. » Alors que quand t'es hypnotisé, t'as la sensation que tes pieds collés au sol, t'avais absolument pas le contrôle dessus.
Ouais.
C'est vraiment cette dimension de contrôle qui s'en... Mais il y a des expériences qui ont été faites. T'obtiens pas de meilleurs résultats par l'hypnose que par une suggestion ou par d'autres techniques de suggestion. C'est mais juste cette déconnexion-là qui s'opère. Mais tu vois, moi, il y a des choses dont je rêvais, par exemple, dont je rêve avec Melchior, c'est de prendre justement des improvisateurs de haut niveau et puis de leur remettre des contraintes de ce qu'ils n'ont pas vécu depuis longtemps. Tu sais, si c'est un improvisateur qui est super rapide, qui réplique du tac au tac, si par suggestion hypnotique, je lui impose d'attendre 2 secondes avant de dire chaque réplique, comment il va transformer son jeu ?
Ouais.
Puis je vais pas avoir besoin de lui renouveler, il va pas l'oublier. C'est-à-dire que s'il est réceptif, il va pas l'oublier. Puis ça, je trouve ça...
Parce qu'il est là, peut-être le problème avec les improvisateurs dits d'expérience. Tu sais, en fait, les gens avec qui je m'entoure, j'essaie de trouver des gens qui réussissent à s'abandonner, à lâcher prise du contrôle. Mais il reste que, je veux dire... La plupart des comédiens d'expérience, des improvisateurs d'expérience, je trouve que le contrôle, c'est un gros enjeu, là. Puis je me demande, est-ce que...
C'est ça qui est compliqué, hein?
Certains... moi, j'en ai eu des très difficiles... Tu sais, de haut niveau, très difficiles à les voir se laisser aller dans le contexte du Dompteur.
Mais tu vois, ce que tu fais avec Dompteur, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes cours de théâtre en France, quand j'ai suivi des cours de théâtre. Ça m'est arrivé de jouer et on faisait des impros, alors pas des impros pour du spectacle, hein, des impros d'entraînement de l'acteur, vraiment comme d'entraînement sportif.
Mm-hmm.
Comme les gens au cours de théâtre où j'étais, le magasin disait que c'était... on entraînait notre instrument. Le violoniste, il fait ses gammes, il s'entraîne, puis... Des fois, ils jouent une partition, bah là, on entraînait notre instrument. Puis des fois, bah, c'est ça m'est arrivé de faire des scènes avec quelqu'un qui, à l'oreille, me disait le texte que j'avais à dire. Donc, j'avais pas à le dire, j'avais pas à réfléchir au texte. Il fallait juste que je le prenne, que je le dise, sans me poser de questions, le faire. Et donc, tu vois, il y a des choses de Dompteur qui m'ont rappelé ça, qui m'ont rappelé la connexion avec le théâtre, ce qui me permet de faire ce détournement. Cette parenthèse qui est importante parce que je voulais t'en parler après la dernière formation, puis je t'en ai pas parlé. Dans mon cours de théâtre, j'ai appris à mettre une intention et une image derrière chaque mot, derrière chaque phrase. Et je trouve que c'est ce qui est extrêmement difficile à faire en improvisation.
Ouais.
Parce qu'en improvisation, on est tellement pris dans produire quelque chose qu'on finit par perdre les intentions et le sens. Voilà. C'est quelque chose que j'avais connecté pendant la formation.
Okay.
Je voulais te le dire, me dire comment est-ce que c'est possible, avec tout ce qu'il y a à gérer pour un improvisateur, d'essayer de retrouver cette force de l'intention dans chacune des phrases. Que chaque mot, chaque phrase qui est dit a un poids, et pas là par hasard, et pas là pour faire du bruit, et pas là pour occuper ou pour combler un silence.
Je pense que t'as mis le doigt dessus un peu, tu sais. C'est lâcher prise du produire,
mm-hmm.
puis c'est devenir ces intentions-là. C'est de répondre à ces intentions qu'on a, puis d'avoir la réaction plausible face à ce que l'autre, les intentions de l'autre.
Et tu vois, c'est pour ça que Dompteur, et puis bah, tu le fais un peu en formation aussi de jouer au Dompteur. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle. Enfin, j'ai appris pendant ça tout le temps. J'ai pris des cours de théâtre, c'est-à-dire continuer ma scène avec les commentaires de la personne qui me dit fais ça. Ouais, pourquoi t'as laissé passer cette intention là? Je l'ai vécu tout le temps, donc rester dedans avec des choses qui arrivent. J'ai été formé entre guillemets comme ça, et puis bah, je trouve que c'est vachement intéressant aussi parce que un des problèmes quand tu te plonges dans quelque chose, quand tu vas trop loin dans quelque chose, c'est finalement est-ce que tu rejoins le public? Parce qu'il faut jamais oublier que, en tout cas dans la plupart des formes d'impro dont on parle, on fait ça devant un public pour un public.
Ouais.
Et bah, si tu vis quelque chose de très très intense à l'intérieur de toi, mais qu'à l'extérieur on voit rien, à mon avis il y a quelque chose qu'on perd, en tout cas dans la dimension du rapport au public.
Ouais.
Donc l'intérêt d'un dompteur ou de quelqu'un comme ça à l'extérieur, c'est qu'il permet de tu peux t'abandonner complètement, le lien lui va le créer. Lui il va aller le chercher, puis si ça se voit pas, lui il va aller te chercher, il va recréer ce lien là. Donc tu vois, c'est quelque chose, c'est mille fois plus facile de s'abandonner avec quelqu'un
on vient, puis j'imagine que c'est ça dans la main de cœur aussi, tu sais, on vient substituer la petite voix intérieure qui est là habituellement, qu'on contrôle pas vraiment, tu sais, qui va y aller d'un côté, il va dire « Vas-y! » ou qu'il va faire « Non, fais pas ça, c'est dégueulasse! » Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui vient faire « Non, tasse-toi. »
Ah ben, dans Melchior, le but, c'était de la faire taire absolument, celle-là. De la faire taire. D'ailleurs, il y a une chose que je faisais en coulisses, juste avant. Je faisais ce que j'appelais une super suggestion. C'est-à-dire, juste avant, je faisais fermer les yeux. Alors, il n'y a pas besoin de fermer les yeux pour de la suggestion hypnotique, mais on en profitait pour refaire le point sur soi. Et je leur disais « Vous êtes les meilleurs improvisateurs du monde. Tout ce que vous faites, c'est réussi et magique. Et tout ce que vous faites, ça va charmer le public. » Donc, ils y allaient en tuant cette petite voix. Tout ce qu'ils allaient faire, c'était bien.
Mm-hmm.
Tout ce qu'ils allaient faire, c'était bien.
Ah ben là, il faut que tu passes avant tous les spectacles de tout le monde.
Ben, écoute, j'ai fait un... Là, il y a des gens de la Rocambolesque qui ont un podcast, un balado d'impro aussi. Mm-hmm.
On les salue.
J'ai fait quelque chose... Ils m'ont interviewé spécifiquement autour de Melchior il n'y a pas longtemps avec deux comédiens. Et puis j'ai dit qu'à une époque, je m'étais posé la question de faire... De faire de la formation en impro avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'on fait des séances d'hypnose et puis après on improvise pour débloquer des trucs, pour des choses comme ça. C'est quelque chose qui est en tête, mais je sais qu'il y a une hypnothérapeute qui fait un doctorat en neurosciences, je crois maintenant, Caroline Desmarteaux, qui travaille un peu aussi autour de l'idée de coaching artistique avec l'hypnose. C'est pas, et en France, je connais quelqu'un qui fait ça avec des scénaristes, donc c'est dans l'air du temps. Mais okay. Je me disais spécifiquement autour de l'improvisation, parce que ça peut être intéressant. Tu vois, un truc rigolo par exemple, à l'origine c'était un stunt, c'était vraiment une scène pour le public, mais ça marche tellement, c'était, on s'entend Fred, les improvisations, langage inventé, 99% du temps c'est de la marde.
Oui, oui, oui.
C'est terrible.
Oui, mais parce que les gens essayent de parler.
C'est ça, parce que les gens, ils essayent à tout prix de parler à qui ne se comprennent pas, ça devient un charabia. Et puis, là, par suggestion hypnotique, je les forçais à parler dans soit un langage inventé, soit un langage qui parlait mais que les autres ne comprenaient pas. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir Arthur qui parlait le népali, par exemple.
Bon.
Donc, je demandais à deux improvisateurs de faire une langue en disant « À partir de maintenant, tu parles uniquement cette langue-là, c'est la seule langue que tu parles, c'est la seule, la plus naturelle et tout le monde te comprend. » Et je demandais aux deux improvisateurs qui ne pouvaient pas se comprendre de faire une improvisation.
Ouais.
Et ben, elles étaient réussies et ils arrivaient à se comprendre parce que ils cherchaient pas à combler le vide en parlant à tout prix. Quand ils parlaient parce que c'était utile et avec suffisamment d'intention pour qu'on arrive à construire une scène.
Ben, parce que c'est les intentions qui parlent. Je veux dire, c'est pour ça que ça fonctionne pas d'habitude. C'est parce que t'as envie de dire « J'ai soif, donne-moi un verre d'eau. » Mais non, c'est quoi tes intentions? C'est ça qu'il faut qu'ils transparaissent. Mais même en utilisant les mots, on oublie de faire
oui,
ça.
Oui, je suis d'accord. Mais je te dis, ça, c'était un fit intéressant. C'est un truc intéressant parce que ça marchait bien. Et puis, malheureusement, c'est le côté, le moment un peu spectaculaire entre le public qui fait waouh, Pareil. Par exemple, je leur faisais faire deux fois la même improvisation. Ils faisaient la même improvisation, après je leur demandais d'environ 2 minutes, après je leur demandais de la faire la même impro, même réplique, même position. Puis ils y arrivaient à 90%.
Ah ouais?
Je pense qu'ils auraient pu, qu'on peut y arriver sans hypnose, mais je pense que le fait que
moi,
d'être...
Impossible pour moi.
Parce qu'il y a de l'hypnose, on se dit que c'est possible. On se dit ouais. que c'est pas possible, mais non, mais c'est possible maintenant.
C'est enregistré!
On l'a fait.
Ouais.
Bah, c'est aussi que 2 minutes, c'est pas très difficile de reconstruire.
Ouais,
et,
ouais.
Mais donc ça aussi, c'était pas forcément quelque chose de super intéressant du point de vue de mes grandes théories sur l'impro, mais c'était pour le public de faire « Oh, ah oui, il y a vraiment de l'hypnose, il se passe vraiment quelque chose. » Parce qu'il y avait cette nécessité de convaincre qu'il se passait quelque chose. C'est aussi pour ça que j'hypnotisais une personne du public et que je la faisais interagir avec les improvisateurs ouais. après. C'était pour montrer qu'il se passait quelque chose.
Mais là, t'as... OK. On est en 2028.
La pandémie vient de finir.
Non! Non! On t'a fourni le Saint-Denis 2. C'est rempli à craquer. T'as la distribution que tu veux. Mélange français, québécois, les gens que t'allais voir plus jeunes en France, ici, les gens avec qui t'aimerais travailler. Ça fait des années que tu roules ce spectacle-là. Qu'est-ce que tu fais?
Ben, aujourd'hui, parce que demain...
Non, 2028!
Non, mais demain la réponse pourrait être une autre réponse.
Ben,
mais aujourd'hui, tu vois le truc de Boal dont je te parlais, de mélanger les répliques. Enfin, ouais. Et justement, avec des gens qui sont vraiment... qui ont une grande habitude de l'improvisation pour que... C'est-à-dire le dépouiller peut-être, alors le dépouiller un tout petit peu de sa dimension politique, c'est-à-dire de pas être dans une idée de revendication, de prendre la place, mais de vraiment, ok, prenons cette pièce de théâtre et qu'est-ce que, si vous pouviez dire des répliques à la place de quelqu'un d'autre, puis produire autre chose à partir de ça, puis de le refaire 3 fois, 4 fois pour voir 4 ouais. trucs complètement différents. En ce moment-là, aujourd'hui, C'est ce qui me botterait. Mais peut-être que dans un mois, je vais me dire ah non, ce que je voudrais, c'est de faire de l'impro avec tout le monde à un scaphandrier et des émetteurs pour voir ce que ça change d'être dans une piscine. Ça, c'est ça le truc avec l'impro aussi, tu vois.
Mais c'est la raison pour laquelle je demande le légume préféré des gens au début de la formation, tu sais. C'est que je sais pertinemment que demain, c'est probablement un autre légume. Mais... Je pousse les gens à faire un choix là, aujourd'hui, maintenant, c'est quoi ton choix? Même si l'idée, pour certains, est un peu trop déchirant.
Puis tu vois, sur le cast, bah, aujourd'hui, tu t'en es donné un certain nombre, des gens qui ont joué avec toi. J'ai parlé de Christian Gage en France, de Christian Singer, qui pourrait être sur ce type de projet pour moi. Après, est-ce qu'ils voudraient embarquer parce que maintenant ils sont peut-être ailleurs aussi, je sais pas où ils sont.
Non, ils ont dit oui là.
En
c'est
impro.
Ça. Ils ont dit oui.
J'avais Séverine Denis aussi, dont j'avais beaucoup aimé les formations et j'ai beaucoup aimé la démarche d'humilité. C'est-à-dire qu'elle fait partie des gens qui ont dit en France, on s'est improvisé formateur. C'est, on a vu les Québécois arriver.
Mm-hmm.
Parce qu'elle, Séverine Denis, elle fait partie des premières équipes de France de matchs d'impro. On a vu la LNI arriver. On a été formé, puis derrière on s'est improvisé formateur et on a commencé à apprendre un truc qu'on n'avait pas tout à fait compris aux autres.
Ouais.
Puis.
Bah, je te dirais que les Québécois qui l'ont appris aux Français, ils comprenaient pas tout aussi non plus.
Mais, oui, mais
qui,
y a pas
qui a la prétention de comprendre aujourd'hui?
Il n'y a pas ce recul, sur la pratique. Mais si tu veux, et effectivement, le truc c'est que pendant des années en France, alors je ne sais pas du tout comment ça a évolué parce que ça fait 10 ans que je suis plus en contact avec les milieux de l'impro en France, mais pendant des années, les formateurs se transmettaient. Entre guillemets, des mauvaises recettes ou des trucs dont ils questionnaient pas.
Ouais.
Pourquoi je fais ça?
Ouais, j'en vois encore.
Pourquoi est-ce que je fais ça? Puis typiquement, l'arbitre méchant, on se l'est transmis parce que la référence était Ponton et puis on n'a pas cherché à comprendre ce que ça apportait. Moi, quand je l'ai fait, j'ai essayé de créer du sens. C'est-à-dire que pour moi, il fallait que j'ai essayé d'attirer l'hostilité du public pour pas que l'hostilité soit sur les joueurs. Il y a ce type de choses. Mais par exemple, une des grandes révélations pour moi, ça a été c'est Yves Morin. Quand j'ai vu la première fois que je suis venu au Québec en 2004 avec une tournée avec la Ligue d'improvisation de Paris, quand j'ai vu Yves Morin arbitrer, quand Yves Morin m'a arbitré, quand j'ai fait un match face à la Globale,
ouais.
J'ai dit waouh. Ce type-là, quand il fait une explication de faute, quand tu vas te rasseoir, tu comprends mieux l'impro.
Ouais, ouais.
Et à partir de ce moment-là, je fais « Ok, j'aimerais être capable d'avoir cette précision.
Ouais. »
Mon voyage en 2004 ici avait été super intéressant. Bien, c'est très drôle parce qu'on ne savait pas où on mettait les pieds. Mmh. Les gens qui nous accueillaient ne savaient pas forcément qui ils accueillaient non plus. Donc on a joué la limonade à l'époque, donc c'était Vincent Rouleau qui était maître de jeu avec Richardson Zephyr. Autant dire que nous qui étions habitués au match traditionnel, ça nous a fait bizarre la limonade,
ouais, ouais.
Tu vois. On a joué la globale, on est allé en région, on a beaucoup de trucs, mais c'était on a joué la Sprite et à l'époque l'arbitre de la Sprite c'était un certain Guillaume Lemay,
ah ouais,
le colonel.
Longtemps,
ouais, c'est bah 2004, c'est
ouais.
2004. Donc tu vois, enfin, je veux dire, mais à tout moment, c'est ça. J'ai appris des choses à cette époque-là, puis les choses ont évolué par la suite, puis elles évolueront encore. Là, on est pas mal cantonné à la réflexion et à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on va reprendre.
Ouais.
Tu vois, tu me demandes le spectacle de rêve en 2028, mais déjà je suis en train de me dire, bon, mettons que je peux prendre un pro-chef en 2021, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, il sort de question qu'on joue dans un bar. Mmh. Donc, quand un pro Montréal a annoncé la fermeture, on commençait à rouvrir les théâtres. Donc, j'ai regardé combien ça coûte de louer le Jésus, combien ça coûte de louer à tel endroit. Puis de me dire, ok, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se constitue UDA, ils ont des artistes. Si on fait ça, ça veut dire que mon bassin de joueurs, je vais le réduire parce qu'il y en a clairement qui ne rentreront pas dans cette démarche. Puis c'est bien correct, mais qu'est-ce que ça veut dire si on rentre là-dedans? Moi, ça fait longtemps que je voulais faire des pratiques avec un pro-chef. Puis au bout de deux pratiques, je me suis aperçu que... Enfin, les pratiques avant le premier spectacle, là, ça y était. Mais une fois que le spectacle a démarré, au bout de deux ou trois ans, plus personne ne voulait aller aux pratiques. Alors pour moi, c'est indispensable.
Ouais. Faut peut-être arrêter d'appeler ça des pratiques.
Sûrement.
Puis appeler ça des spectacles, pas de public.
Ouais, mais les gens sont pas dupes, mais tu vois, des répétitions de travailler parce que tu vois, ça aussi, tu vois, quand on te dit on veut pas de. Tout à l'heure, ce que tu disais, mais le public choisi peut mal choisir. Je fais oui, mais si on veut travailler, c'est quoi un bon début d'impro selon nos standards?
Ouais, ouais, ouais.
Pour pas que le public nous amène en on veut pas, faut peut-être qu'on fasse des choses entre nous.
Complètement, complètement. Mais tu sais, c'est ça. Tu passes, t'as mis le doigt dessus un peu. Si tu y vas UDA, puis tu commences à payer ton monde, là, tu peux faire. Ce projet-là, c'est plus un hobby, là.
Mais un prochain, je paye mon monde.
Oui.
Depuis deux ou trois ans, au départ, je gardais la recette parce que j'ai eu des investissements au départ.
Mmh.
Puis à un moment, il y a un joueur qui m'a dit, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Puis au départ, c'est vrai que je voulais faire un chalet, des stages de formation, des trucs qu'on n'a jamais fait parce que dès qu'il fallait trouver une date pour tout le monde, c'était une catastrophe et il n'y avait plus personne. Enfin, pas il n'y avait plus personne, mais il n'y avait pas assez de monde. Puis tu fais, mais telle personne, elle joue 90% des spectacles, si elle n'est pas là pour le chalet, c'est pour être prêt. Bon. Et puis j'ai dit, écoute, ça c'est simple, je split.
Mais c'est ça, c'est redistribution.
C'est redistribution. À la fin de la soirée.
Ça, je veux dire, ils font cravate, tout ça, puis c'est normal dans un sens. Je veux dire, ce serait normal aussi que tu en gardes une plus grande part vu que c'est toi qui l'organise.
Quand je l'organise, je le fais, mais quand quelqu'un d'autre l'organise, parce qu'on a tourné un peu, on laisse une part et puis on a une cagnotte.
Mais après ça.
Pour le matériel.
Ça rend pas ça professionnel dans le niveau où on fait je t'engage pour.
Non, non. Mais le problème aussi, c'est que. Moi, il y a des gens que j'aime beaucoup en impro, de très bons, qui sont des improvisateurs avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Et puis, je reconnecte un peu avec Delphine Bienvenue, là où j'ai arrêté le podcast avant d'arriver.
Ouais.
Moi, les personnes que j'aime souvent en impro, c'est des filles. Il y a beaucoup de gens, si je leur commence à leur parler UDA et professionnalisation, ils vont dire « Oh non, moi, l'impro, tu sais, c'est des sketchs en jogging. » Même si concrètement, ce qu'ils font sur scène, c'est pas des sketchs en jogging.
Ouais.
Puis,
cette phrase-là me scie les jambes, mais continue.
Y a des gens qui voient ça comme ça, et puis...
Mais non, mais tu sais, je pense que c'est Cadieux, puis Étienne Saint-Laurent, que j'ai entendu plus le dire, puis je fais... Oui, le match. Vous parlez du match, en tout cas, mais continue.
Non, mais bien sûr, puis bah, on peut le prendre comme ça, puis on peut se dire qu'on fait autre chose, puis essayer de faire autre chose, et puis avancer dans ce sens-là. Tu vois, je vérifie que j'ai mis assez d'argent dans le parcomètre parce que je veux une petite voiture du stationnement Montréal.
Ah. Non, c'est le fun quand on a un visuel.
Voilà, mais tu vois, donc, non, c'est correct, mais puis sur...
Où tu rejoignais.
Ouais, mais sur les filles notamment, tu vois, moi j'ai un plus gros bassin de joueuses qu'un bassin de joueurs sur un prochain. Parce que j'ai plus de plaisir à jouer. Et je vais même dire, j'ai eu des surprises. J'ai eu l'occasion de voir jouer une joueuse du bassin d'un prochain qui joue régulièrement avec nous dans un autre contexte. Et puis j'avais envie, j'étais tellement triste.
Ouais.
Parce que les gars autour d'elle la laissaient pas jouer. Elle exprimait pas ce qu'elle exprimait quand elle jouait avec moi. Et je la reconnaissais pas. Et ça me faisait mal.
Et c'est une affaire de contexte, hein.
Parce qu'il y a tellement de... Tu vois, mais c'est le problème du... Si je veux juste... Un vieux rant sur les camps de recrutement. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils choisissent des chums, ils choisissent des gens dont ils aiment la couleur. Puis des fois, quand j'étais dans des camps, je voyais les équipes se former et puis je disais... Ok, mais cette équipe-là, ça, je comprends, ils sont chums, mais ils ont tous la même couleur.
Ouais.
Et toutes leurs impros vont s'ensembler toute l'année.
Ouais.
Puis quand j'allais voir, ou peut-être j'étais statisticien pour la semi-illustrée, parce que c'était ma seule façon de faire partie de cette ligue qui j'ai toujours eu un rapport affectif. Et je voyais les équipes, puis je disais, ouais, mais cette équipe-là, tu sais ce qu'elle va faire toute l'année. Et elle faisait ça toute l'année.
Ouais, oui. Mais tu sais... C'est, je veux dire, moi, des gens qui ont toutes la même couleur, ça me dérange pas. C'est pas ça que je sais. Mais tu sais, à quelque part, les gens que je vais chercher pour l'instable, ils ont quand même une couleur similaire, même s'ils ont leur particularité. Tu sais, il y a quelque chose qui m'attire vers eux, puis c'est normal de
Oui, mais pour moi, si tu construis une équipe full constructeur, il y a une couleur, mais... C'est,
c'est ça.
Mais après, c'est le grand gag des camps de recrutement. Cette année, on va recruter des constructeurs. Bah oui, bien sûr. Ouais,
non, mais puis après, tu fais comme... des équipes d'impro dans le match, c'est pas les Power Rangers, là. Ça t'en prend pas un rose, un jaune, un bleu. Tu sais, c'est différent.
Non, puis en plus, ils les prennent pas, les constructeurs. Soyons honnêtes, hein, je veux dire. Ouais. Je parle même pas pour ma chapelle. Des fois, j'ai fait... Vous prenez lui, mais pas lui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le premier, c'était le chum d'une joueuse qui était déjà l'ami d'un... Mais puis c'est normal. C'est normal.
Moi, ce que... En fait, là, mon travail depuis plusieurs années, c'est redéfinir mon contexte. Mm-hmm. Puis là, tu questionnes ça quand, dans le fond, c'est le contexte qui fait ça. C'est le contexte qui pousse les gens à faire ça. On est habitué de faire ça depuis des années, puis on fait ça depuis des années. Puis le coach qui te demande à l'arbitre de dire aux gens d'être un peu... Tu sais, il se pose pas ta question sur le contexte ou pourquoi il est là. Tu sais... Et je pense que maintenant, quand j'entends quelqu'un faire comme « Ah, je m'y plais pas » ou « ça me plaît moins », je fais « Ben... » Révise ton contexte. C'est super facile à dire, difficile à faire, mais tu l'as fait. Tu fais ton show, ton affaire. On a plus de pouvoir qu'on pense à...
Oui, mais tu sais aussi, tu vois, toutes ces critiques sur tout ce que je peux sortir sur les camps de recrutement, sur l'impro. Tu sais, moi, je suis arrivé, en arrivant au Québec, je déifiais l'impro québécoise. J'étais un Français. J'avais vu les Québécois.
Ouais, c'est pas le premier.
J'ai vu les Québécois improviser. C'était rapide, ça partait, ça allait vite, ça allait au cœur des choses, ça partait pas dans des mondes imaginaires à la moindre truc. Ça disait pas du oui sans arrêt alors que ça avait aucun sens de continuer à accepter la situation.
Mais tu sais, on tombe de haut aujourd'hui parce que moi, j'ai vécu cette époque-là où j'arrivais en France et les gens faisaient comme « Oh mon Dieu, des Québécois! » Puis on était les Beatles. Puis là, 20 ans plus tard, tu retournes en France et tu fais comme « Ouais, Québécois, on a déjà vu ça. » Ben, pour certains endroits, il y a « been there, done that ».
C'est normal. C'est parce qu'à un moment, il y a une réflexion qui a dépassé le match. Il y a... Je sais que tu as interrogé dans ton balado Yann Parizeau, par exemple, qui est quelqu'un avec qui j'ai des relations conflictuelles, mais des échanges intéressants pareils. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque où on s'est rencontrés, je pense qu'on avait tous les deux une vision assez, assez précise de ce que devait être l'impro.
Ouais.
Lui encore plus que moi. Et voilà, on a eu des échanges un peu particuliers. Mais en même temps, déjà à l'époque, je disais, mais c'est toi qui as raison parce que toi tu fais. Parce que toi tu as monté ta troupe, parce que toi tu fais des spectacles, puis moi juste j'en parle.
Ouais.
Donc de nous deux, celui qui a raison, c'est celui qui fait. Déjà à l'époque, je disais ça. Tu vois. Mais. Il a fallu que je vienne au Québec pour faire. Ça, c'est intéressant.
Ouais.
C'est donc il y a tout ça, toutes ces réflexions autour de Johnston, de Catch Impro, le Cercle des Menteurs, parce que le Cercle des Menteurs, c'est quand même un spectacle qui a été créé en 1990 au départ. Il y a plein de formes alternatives bouillonnantes là où au Québec, ben. Concrètement, les formes alternatives.
Il y avait l'impro bolo.
Non, mais je veux dire, les formes alternatives qui ont subsisté un peu, il y avait la limonade.
Ça partait de la lime, en fait.
Voilà, la limonade.
Moi, quand je suis rentré à la lime, c'était la ligue d'improvisation. Tu sais, c'était la ligue d'impro expérimentale.
Oui.
Puis c'est ça, là.
Mais tu vois, vous étiez dès encore. C'est quelque chose qui je trouve super intéressant pour la lime. Pour la lime, c'est. Pourquoi vous appelez ça encore une ligue?
Ben, je sais
pas. C'est plus une ligue depuis longtemps.
Je sais.
C'est des spectacles, il n'y a pas de vote, il y a un bon show d'impro, il y a un des.
Mais si on prend le terme ligue au sens là, de ligue de princes se rassemblent.
C'est un héritage, et puis on ne fait pas disparaître l'héritage comme ça, si tu veux. Mais rien que d'éliminer.
On en parlait, de passer à les improvisateurs de Montréal ou.
Ouais, ça permettrait de garder le logo.
Ouais. Ou les instables.
non, mais tu vois, c'est sortir de ce cadre-là et puis reconnecter avec tout ce qui a été fait en impro avant le match. C'est-à-dire que je ne rentrerai pas sur la querelle de qui de Gravel ou Johnston était le premier. je veux dire, Boal, c'est largement avant. Stanislavski, c'est largement avant.
Mm-hmm.
À une époque, j'avais discuté un peu avec Pauline Boucher, il y a les Atlanes. Il y avait une part en théâtre grec, elle m'avait raconté qu'il y avait une part d'improvisation sur des choses avec. Donc, je veux dire, il y a une longue histoire d'improvisation. En France, il y a un vrai bagage avec Jacques Lecoq, avec Mouchkine, avec tous ces gens-là qui ont travaillé le Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil qui fait des impros, qui fixe les impros après pour les jouer. Donc, on a.
J'ai étudié avec Robert Dion, qui est complètement de cette gang-là.
Voilà, on a quand même un héritage de réflexion autour du théâtre. Et comme on a assumé beaucoup plus facilement en France, je dirais, c'est beaucoup plus un spectacle de théâtre, ce qui à une époque était presque handicapant, mais finalement, pour le développement de la discipline, est plus intéressant qu'un spectacle de bar. Parce que le spectacle de bar, il ne te permet pas de connecter avec le nouveau théâtre expérimental, il ne te permet pas de connecter avec le grand cycle ordinaire, avec tout ce qui se faisait en impro avant le match.
Ouais.
Dont j'ai un peu connaissance parce que je m'y suis un petit peu intéressé. Parce que quand tu t'intéresses un tout petit peu à la révolution tranquille dans le domaine artistique, ça pointe quand même super vite aussi. Gravel, il ne peut pas être limité au match.
C'est aussi une école maintenant.
Oui,
c'est une
murale,
une belle
murale. Mais tu vois, un Ronfard avec tout ça. Et puis j'étais tombé sur le mémoire d'Alexandre Cadieux, je l'avais lu aussi autour de ces origines-là. C'est très intéressant de voir où ça vient. Et ça reconnecte à ce qu'on disait tout à l'heure sur le match. C'est le match, il ne le propose pas à des gens qui ne savent pas improviser au départ, Robert Gravel. Il le propose à des gens qui font partie.
Ouais.
Des gens qui. C'est...
Ben, comme je te disais pour Parc, je le propose à des gens que je sais qu'ils vont.
Puis c'est normal. Puis c'est normal.
Qui vont l'embrasser, ce projet-là.
C'est normal.
Ouais.
Et donc. Mais tu vois, donc cette dynamique et cet héritage-là se recréent plus facilement en France qu'ils se recréent au Québec parce que. En France.
Ben, la culture théâtrale.
Ben, on répète toutes les semaines. On fait des ateliers toutes les semaines. Et on joue. Si on fait partie des happy few de notre ligue ou de notre équipe.
Le modèle standard, là, tu parles. Ouais.
On joue 5 ou 6 fois par an.
Mm-hmm.
Puis si on fait partie des gens sur le banc, on fait un match par an, donc on a envie de le vivre. Donc quand un arbitre nous met une comparée de 10 minutes, un joueur par équipe, puis qu'on n'est pas dessus, on est frustré.
Ouais.
Mais donc y a un héritage théâtral qui est plus marqué. et qui fait que, bah, à la fois ce qui faisait qu'à une époque, parce qu'encore une fois, je parle plus de l'improvisation théâtrale française d'il y a 10 ans, il pouvait y avoir un truc très ampoulé, un théâtre de convention. On ouais. faisait ça parce qu'il faut le faire comme ça pour se faire comprendre. Mmh. C'est une pagnole, on met des gens qui font des criquets en réserve. Mmh. Hein, c'était les gens essayaient même pas de connecter avec ce qu'ils avaient lu ou vu de Pagnol, hein, de Marcel Pagnol. Ils disaient, ok, c'est une Pagnol, il faut faire
ouais,
ça.
Ouais.
C'est une Tchekhov, il faut parler l'accent russe, puis il y a le général qui revient de Moscou. Il n'y ouais. avait pas plus de réflexion.
Je trouve qu'on fait ça avec pas mal tout. Là, tu dis que c'est français, mais même ici, là, tu fais comme, il y a un western, puis là, les gens vont automatiquement essayer de prendre le chemin du western, tu sais, c'est le faire utiliser tous les termes et les clichés possibles pour que le public fasse ouais oui, c'est vraiment un western, là, tu fais, mais merde, lâchez ça là.
Mais non, mais c'est et du coup ça, c'est quand même resté théâtral dans des théâtres, puis le fait de jouer aussi devant des salles de 300 400 personnes pour beaucoup de ligues.
Ouais.
Je veux dire, les matchs de gala à Limoges, à l'époque où j'allais un peu du côté de Limoges, les matchs de gala de la Balise, du théâtre de la Balise, c'était une salle de 400 personnes.
Ouais.
Ça fait une différence avec jouer devant 10 personnes devant un bar, dans un bar, alors qu'il y a un match du Canadien dans la pièce d'à côté, puis qu'à chaque fois que ça compte, t'entends plus ce qui se passe dans la patinoire. C'est sûr que tu peux pas réfléchir de la même façon et faire évoluer une pratique de la même façon.
Oui, complètement. Je vais laisser les gens réfléchir à ça.
c'était rigolo. C'était sur le cercle des menteurs, il y avait une des phrases qui était prononcée au début par le maître, le menteur suprême. C'était dans ces instants où le monde entier respire le mensonge. Et oui, car... Regardez, nous voici dans les dernières heures d'un jour où pourtant dehors il fait déjà nuit. Je vous laisse réfléchir là-dessus. où on était dans les premières heures d'un soir où dehors il fait encore jour.
Ok.
C'était dans la présentation, c'était les phrases standards qu'on retrouvait. Mais c'est ça, c'était très sur la langue, sur les jeux. C'est pour ça que quand je l'ai adapté au Québec, j'ai fait pas sûr.
Tu pourrais peut-être ramener un peu dans...
Mais... Si on évolue vers une professionnalisation, je vais peut-être reprendre l'idée des présentations. Donc chaque frères et sœurs du mensonge, du cercle des menteurs, avait un petit texte de présentation garni de plus ou moins de jeux de mots ou de réflexions
comiques. Les fameux jeux de mots.
Ouais. Oui, tous les noms des frères et sœurs du cercle des menteurs, il y avait des jeux de mots derrière. Et les chefs d'impro-chef, on a des noms de scène. Pour moi, c'est très important. C'est parce que ça permet de créer une distance entre la personne où on est sur scène et la personne dans la vie. C'est pour ça aussi que, contrairement aux anglo-saxons, je ne peux pas concevoir d'aller sur scène comme je suis habillé tous les jours.
Oh, ouais.
Faut que je me change. Faut que je crée cette transition. Ouais. Faut que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que ça me protège aussi. Donc, au pro chef, on a le chef, effectivement. On a la chef d'œuvre. On a le chef Erville.
Mais tu l'essaieras un jour à jouer sans te changer. Il y a quelque chose aussi.
Je l'ai déjà fait. Ou même,
mais je comprends ton point de vue. Mais...
Arriver à juste mettre le chandail d'arbitre par-dessus le jean. C'était pas agréable.
Ouais, non, mais ça, c'est... Ouais. Ça? Non, mais tu le fais en connaissance de cause, pas genre j'ai pas eu le temps. Tu sais. Mais bref, je te remercie, Mathieu.
Je te remercie.
Je sais qu'on aurait pu continuer toute la journée.
Je pense que c'est un de nos points communs. Je pense qu'on est capable d'en parler toute la journée.
Bon, je vais aller l'écouter 3 fois, puis je vais aller le mettre en ligne. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.